Le Monde en direct.
Julie Morel et Pascal Claude.
Oui, si cette histoire est tragique, c'est non seulement parce qu'elle me touche au plus profond, mais surtout parce qu'elle parle de choses qui échappent à ma seule expérience et que nous avons en commun, vous et moi, la beauté, la tristesse, la cruauté, la joie, l'argent, le sexe, le jeu, le deuil, la foi, l'enfance, la politique, la justice et le désir, le réel et le virtuel, la passion, la douleur, la mort et l'amour.
Voilà comment s'adresse aux lectrices et lecteurs le narrateur du nouveau roman de notre invité. Une histoire qui raconte une jeunesse qui se cherche, qui joue en ligne, qui s'échappe dans la fiction, qui évolue dans un monde dominé par le capitalisme numérique et le retour de l'extrême droite. C'est enfin et surtout l'histoire d'un jeune homme qui assiste à la mort de son père.
Bonsoir Théo Cassiani.
Bonsoir.
Insula, c'est le titre de votre deuxième et nouveau roman. Très vite, dans le texte, le narrateur, il dit « Je viens d'une drôle d'époque ». On va commencer par là, si vous le voulez bien. Comment la décrivez-vous, vous, cette drôle d'époque, Théo Cassiani ?
Je pense que je dirais que cette drôle d'époque est traversée de fiction, pas nécessairement celle qu'on désire, celle qu'on a envie de revendiquer, de défendre. Et je crois que l'idée de ce livre était peut-être d'être moins étrange qu'on peut le croire quand on en entend parler rapidement, mais de proposer une autre fiction ou une contre-fiction pour parler à la fois du deuil personnel du père, mais aussi un peu du deuil d'un monde ou de certains espoirs qui peuvent traverser ma génération et notre époque.
La fiction et le réel qui se mélangent, qui s'entrelacent, reflet de l'époque aussi ?
Oui, je pense, j'ai déjà, à titre personnel, du mal avec l'idée de réel, et je pense que la fiction est partout et que le réel lui-même est contaminé de fiction, et particulièrement aujourd'hui. Et aussi étrange que ça puisse paraître, je crois que ma manière de spéculer ou de fictionnaliser les choses dans ce livre est avant tout une manière d'être réaliste et de raconter le monde tel que je le vois, c'est-à-dire aussi traversé de complots, traversé de rumeurs, traversé d'étrangetés, d'artifices. Et c'était ça le principe de cette insula, de cette île pleine de fiction qu'on a dans la tête.
Vous parlez de narcissisme aussi, hein ? Le narcissisme d'une génération qui pense être la dernière. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce narcissisme-là ?
Non, je pense que c'était plus une boutade, mais c'est que je suis toujours un peu intrigué par cette espèce d'appel à l'apocalypse ou de peur de fin du monde qui peut traverser ma génération ou l'époque qu'on traverse, alors que, par exemple, vous parliez de retour de l'extrême droite, le narrateur comme moi avons vécu dans une ville qui est déjà aux mains de l'extrême droite depuis 10 ans,
Béziers
en l'occurrence. Mais je pense donc que l'apocalypse est peut-être derrière nous, mais en tout cas, je ne m'amuse pas à me faire peur avec un monde qui s'effondrerait, mais plutôt de voir ce qu'il y a déjà dans les ruines qui nous entourent.
C'est une génération qui a grandi avec Internet, que vous décrivez aussi, dans ce capitalisme numérique, comme vous le mentionnez. Les réseaux sont devenus des jeux, des lieux de vie aussi. Et alors, il y a le père qui dit à son fils, quand il est ado, « Ok, si tu as terminé tes devoirs, tu peux aller faire de l'Internet ». Vous la soulignez, cette expression, faire de l'Internet.
Ouais, je souligne cette expression parce que je me souviens très bien de lui me disant, voilà, si t'as fait tes devoirs, si tu as rangé ta chambre, tu as le droit de faire de l'Internet pendant une heure. Et maintenant, j'ai parfois l'impression, et ce point-là dépasse ma génération, parce que je pense que ça concerne n'importe qui, à la fin d'une journée de travail ou d'errance sur mon ordinateur, de me dire, là, je vais aller dans un parc pour faire une heure de réel. Et donc, je pense que ce rapport s'est complètement retourné et que c'est plus du tout une affaire de fan de science-fiction que de parler de réseaux sociaux, d'Internet, de sites de rencontres ou de sites de livraison. C'est-à-dire que c'est devenu partie prenante de notre vie quotidienne et de ce qu'on appelle la réalité.
Une génération qui se réfugie dans les jeux vidéo, comme si c'était mieux là-bas qu'ici, dans le réel ?
Je pense que c'est une envie d'expérience et une envie d'alternative, et que c'est peut-être une fuite un peu éperdue, parfois aussi une fuite un peu bourgeoise, de se dire on va s'amuser à essayer quelque chose de nouveau, mais en tout cas de moins en moins une distraction, et je crois de moins en moins que les histoires parallèles aux notes soient des moyens de nous divertir, mais plutôt des façons de proposer d'autres modèles.
Parce qu'à un moment, vous parlez dans le texte du jeu Final Fantasy, je connais pas, vous le voyez, la manière dont je prononce le nom du jeu, 7e volume en tête, un chef-d'œuvre, écrivez-vous, que je trouve autrement plus politique que tout ce que les romans et les films ont pu offrir aux dernières décennies.
Bon, en tout cas, je me souviens, adolescent, d'avoir, j'allais dire, lu Final Fantasy, et ça aurait été un bon lapsus, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir joué à ce jeu comme on lirait un roman. Et ce qui m'intéressait là-dedans était beaucoup moins de franchir des niveaux ou de tuer tel personnage ou de faire progresser tel autre, mais de voir la façon dont le monde se construisait et dont on pouvait parler, en l'occurrence, de violence, de domination, d'écoterrorisme, de sujets très politiques, mais d'une façon qui, moi, m'a appris à percevoir le monde qui m'entourait.
Ce roman, il raconte aussi la fin de vie d'un père, du père du narrateur, et sans doute en partie la mort de votre propre père. Et vous avez des pages absolument bouleversantes sur le sujet. Vous en lisez un extrait, Pascal ?
Mon père regarde vers l'extérieur comme si c'était la dernière fois. Il boit une énième gorgée de jus d'orange comme si c'était la dernière fois. Il étire ses bras comme si c'était la dernière fois, puis me fixe comme si c'était la dernière fois. Un frisson remonte mon dos, c'est alors qu'il se penche vers moi, porte sa bouche à mon oreille et chuchote avec le peu d'air qui subsiste qu'il ne veut plus rester ici. Extrait donc de votre nouveau roman. Et puis, juste après, il y a votre narrateur qui dit en vouloir absolument à la littérature de ne pas l'avoir préparé à ça, à cette situation-là.
Oui, je pense que j'ai toujours beaucoup cru en la littérature, que j'ai vu les livres comme des sortes d'amis de papier qui m'ont entouré. Et durant cette période, mes proches étaient là, aussi maladroitement et courageusement qu'on peut l'être, mais plus les livres. D'un seul coup, il n'y avait plus aucun de ces amis de papier capable de m'aider à trouver quoi dire et comment faire pour citer le livre. Et je me suis aperçu qu'il y avait une sorte de grand vide de représentation dans la littérature, mais plus généralement dans la culture contemporaine autour de cette question de la fin de vie. Et si tant est qu'un livre puisse servir à quelque chose, je me suis un peu juré à ce moment-là que j'avais envie de ne plus laisser personne seul face à des scènes que je découvrais chaque jour et où je trouvais ça inimaginable qu'en 2026, je sois à ce point
désemparé
et dénué de tout référent à suivre ou à déconstruire, peu importe, mais d'être complètement jeté dans l'inconnu face à une affaire qui me semble quand même assez commune, politique et universelle, qui est celle de la mort.
La dignité est une affaire politique, écrivez-vous Théo Cassiani.
Oui, je crois que ces questions se relient parce que cette absence de représentation crée aussi un impensé politique et qui, moi, m'a sidéré dans ce temps que j'ai passé dans un hôpital public français, mais j'imagine que c'est la même affaire en Belgique et que c'est la même affaire dans beaucoup de pays d'Europe occidentale. Mais
avec comme différence quand même que l'euthanasie est interdite en France encore aujourd'hui, que ce n'est pas le cas en Belgique.
Oui, absolument. Mais je vois par exemple en France que le débat sur l'euthanasie, par-delà mon point de vue et moi, mon soutien à cette cause, mais le simple fait que ce débat soit absolument étouffé et crée un tabou tel dans la société génère un vertige que je trouve inadmissible pour une société. Je pense que ne pas être capable de regarder la réalité de la mort et de s'en remettre simplement à des représentations comme celles qu'on croise dans les hôpitaux avec des oiseaux qui s'élèvent dans le ciel. Voilà, moi, c'est pas ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu du sang, j'ai vu des larmes, j'ai vu de la misère sociale et je pense qu'il faut raconter ça pour dire quelle est la réalité de la fin de vie dans nos pays. Just a perfect day.
Ça, c'est sans doute la dernière chanson qu'a écoutée avec vous, votre père, ou en tout cas le narrateur dans votre livre.
Oui, c'est une chanson qu'on aimait beaucoup. Et c'est vrai que, voilà, je laisse tomber le narrateur, mais moi, comme le narrateur, on a dansé ensemble avec mon père. Je ne sais pas bien s'il était conscient, mais en tout cas, il était vivant. Enfin, la science dit qu'il était vivant. Du coup, je me suis dit que tant qu'à pouvoir encore faire quelque chose ensemble, on allait danser en écoutant cette chanson.
Je l'appelle pour le retenir, puis je saisis sa nuque pour lui dire ce que je ne lui ai jamais dit jusqu'alors, que je l'aime. Il se redresse dans un dernier élan, à bout de force, à bout de souffle, tentant par tous les moyens de me répondre sans parvenir à détacher ses lèvres. Je lui jure que j'ai compris, que je le sais, et comme soulagé, il s'endort enfin. Est-ce que l'écriture permet de faire son deuil ?
Je ne sais pas vraiment vous répondre, parce que c'est sans doute ce que je me suis dit en écrivant le livre. Et évidemment, à la parution, je me suis aperçu qu'un deuil ne se fait sans doute jamais, et qu'il ne faut peut-être pas trop en attendre des livres. Mais je pense en tout cas qu'il m'a permis de m'approprier cette histoire et d'essayer de tirer de cette expérience douloureuse quelque chose comme une méthode, parce qu'il y a cette absurdité dans le décès d'un proche, surtout quand il est inattendu et soudain comme ça, quand un monde s'effondre et que, et que tout paraît inacceptable par ailleurs, mais qu'en même temps, c'est une chose assez commune et assez banale. Et donc, je voulais que le livre ne soit pas simplement un journal d'hôpital ou un témoignage de deuil, mais ça devienne quelque chose de plus large qui permette d'accueillir d'autres deuils et d'autres émotions.
J'aimerais qu'on termine cette interview en parlant d'intelligence artificielle. Hier, à ce micro, on avait Abel Quentin, qui appelle au boycott de l'IA et qui nous disait, Abel Quentin, que la littérature qui utilise l'intelligence artificielle, c'est plus de la littérature. Vous n'êtes pas d'accord, vous, avec ça? Vous aimez jouer avec l'intelligence artificielle pour écrire?
Oui, moi, je pense que la culture et tous les arts, et malheureusement pas assez souvent la littérature, mais ça devrait l'être aussi, doit se nourrir des évolutions de la technologie. Le problème est de savoir comment on utilise ces outils, entre les mains de quelles personnes on place ces outils. Mais moi, je n'ai pas d'autre...
Il y a de l'IA dans Insula ?
Dans Insula, pas d'IA, mais peut-être pour la suite. Mais en tout cas, je n'ai pas d'autre rêve que de pouvoir collaborer avec des machines.
Vous écrivez « Celles et ceux que ça dérange ne mesurent pas le retard de la littérature. Celles et ceux que ça énerve ne comprennent pas que le style... est une fraude. Le style en littérature, une fraude. Vous n'allez pas vous faire des amis, là. Surtout dans votre prestigieuse maison d'édition, chez POL, où le style compte.
Pour l'instant, personne ne m'a... Vous êtes le premier à me mettre face au mur, mais...
Je suis désolé.
Non, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que je pense qu'il est temps que la littérature sorte de certaines coquetteries pour avoir le rôle qui, d'après moi, est urgent aujourd'hui, c'est de profiter de sa lenteur, de profiter de ses défauts aussi, mais de sa capacité à créer d'autres récits, parce que le monde est rempli d'autres gens qui créent des récits, parfois avec l'intelligence artificielle, qui ne sont pas forcément les récits que je trouve les plus désirables.
Merci.
Merci
beaucoup.
Merci à vous.
Merci Théo Cassiani d'avoir été avec nous. On l'a beaucoup aimé votre livre, vous l'aurez compris. Ça s'appelle Insula et c'est chez POL. Merci.